Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour la révélation, Seigneur, de l'immensité de ta grandeur, de l'immensité de ton caractère, de ta puissance, de ta connaissance, de ta présence. Père, nous avons tant de choses à apprendre, tant de choses profondes à apprendre de toi et de ton royaume. Et je prie, Seigneur, qu'au travers de l'étude de ce livre de l'Apocalypse, nous puissions comprendre, non pas seulement avec nos têtes, Seigneur, que cela descende dans nos cœurs et que cela scelle la révélation, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, entrer dans des dimensions plus profondes, les dimensions de l'éternité, les dimensions de la destinée que nous avons ici sur cette terre. Oh Père, je veux te louer pour cela. Merci parce que ta parole est bonne et puissante, que ta parole nous nourrit. Merci pour la révélation que tu nous donnes, parce que tu nous donnes aussi l'intelligence pour comprendre cette révélation. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen.
Nous étudions l'Apocalypse verset par verset. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre sur ce livre. C'est un livre que je crois qui a fait couler le plus d'encre parmi tous les livres qu'il y a eu et qu'il y a écrit dans la Bible. Beaucoup de commentaires. Dans tous les siècles, il y a même eu des peintures, des tableaux qui ont été faits. Toutes sortes de choses pour essayer de décrire les événements. Mais ce que je regrette la plupart du temps, c'est qu'on oublie de montrer la gloire de Dieu dans ce livre.
Et pourtant,
c'est un livre de gloire.
C'est
un livre de révélation puissante. C'est un livre où vraiment il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs dans la parole. Ou alors, c'est un livre qui nous donne tellement plus de révélations par rapport à d'autres révélations qu'il y a déjà dans la parole. Donc nous avons commencé à... Enfin, nous avons bien avancé dans le livre.
Et
nous avons regardé un petit peu au départ les introductions que Jean fait au chapitre 1, comment il reçoit cette révélation.
Je
vous ai montré les différentes visions, les différents titres aussi, ou les mots un peu particuliers, particulièrement au chapitre 1. Et puis déjà au chapitre 1, Jean va recevoir une première vision. Et nous avons vu que Jésus se révèle en étant Jésus glorifié et Jean tombe sous la puissance de Dieu.
Lorsqu'il
a cette vision de Jésus, la gloire du Seigneur est là et Jean est comme foudroyé. Et puis Jésus va lui donner un message aux sept églises. Et nous avons étudié ce message aux sept églises. Et ça fait partie du chapitre 2 et chapitre 3. Et nous en étions au chapitre 4. Et là, au chapitre 4, nous rentrons vraiment dans un autre domaine de la révélation.
Igice cya kane dutanguye kwinjira mu rundi rugezo rwo guhishurirwa.
Jésus disparaît.
Yesu ntasubira kuboneka.
C'est-à-dire que les gens ne voient plus.
Yohana ntasubiye kumubona.
En tout cas, tel quel pour l'instant dans la première révélation.
Ntasubiye kumubona.
La première vision.
Nkuko yamubonye mu iyerekwa rya mbere yaronse.
Et d'un seul coup, Jean va se retrouver.
Hanyuma Yohana cyayisanga.
Toujours en esprit, c'est-à-dire en voyant le monde spirituel.
Aho surumva aracari muri mpwemo.
Et le Seigneur va lui montrer un certain nombre de choses. Et Jean va avoir cette révélation absolument fabuleuse du ciel, du troisième ciel, du trône de Dieu. Il va voir Dieu lui-même, mais pas dans sa pleine gloire. Et puis il nous décrit ce qu'il y a sur le, autour du trône. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc nous allons reprendre les premiers versets du chapitre 4. Et Jésus, à partir de ce moment-là, le Seigneur va lui révéler au travers de l'Esprit des choses futures. Principalement. C'est ce que Jean va nous dire d'ailleurs. L'ange va parler. Et je vous rappelle au verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, au troisième ciel, bien sûr, une trompette, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler, et ça, c'est que ça a l'air d'être clair, que c'est un ange, monte ici et me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et là, nous avons remarqué que Dieu a des choses souveraines.
Hanyuma y'ibyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye kandi ngo ryajwe nabanje kumva ryajwe ry'umumarayika rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo byakazoza.
Et là vous ne verrez plus l'église sur la terre à partir du chapitre 4.
Ah kuva kuri kino gice cha kane ishengero ntirisubira kuvugwa.
On ne va plus parler de l'église.
Ishengero ntirisubira kuvugwa
parce que l'église entre-temps a été
enlevé.
Nous allons en parler un peu plus tard.
Par
contre, on voit qu'avant, dans les chapitres
1, 2 et 3,
eh bien on parle de l'église, on parle des églises. À partir du chapitre
4,
d'abord Jean, chapitre 4, va recevoir la révélation de la gloire du trône.
Et
chapitre 5, on va voir après le déclenchement de la tribulation. De ces 7 ans que Daniel a prophétisé, qu'on verra la 70e semaine d'année de Daniel.
Daniel je
vous détaillerai cela. Et en fait, on va avoir plein de chapitres qui vont parler de ces 7 ans-là. Comment Dieu va venir juger la terre. Et c'est vrai que l'Apocalypse nous en parle beaucoup. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final est de montrer l'instauration du royaume de Dieu avec les rachetés du Tout-Puissant qui vont vivre avec lui pour l'éternité dans leur corps ressuscité. Mais aussi, Dieu va nous montrer dans ce livre la victoire finale sur ses ennemis. Dieu va nous montrer qu'il va reprendre sa propriété. Il va restaurer puis instaurer son royaume. Et c'est là où nous serons avec lui pour l'éternité. Donc ça, c'est le schéma que vous ne devez jamais perdre de vue. Parce que nous allons aller profondément dans des détails sur, effectivement, les jugements que Dieu va envoyer sur la terre. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, tout à fait en tout cas. Alors donc, Jean se retrouve dans une autre vision.
Et
l'ange lui dit, voilà, je vais te montrer ce qu'il va y avoir, ce qui va arriver dans la suite, c'est-à-dire quelque chose qui va être obligatoire, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est là où Jean va voir le trône et la proximité du trône de Dieu. Et Et franchement, c'est la révélation la plus précise que nous avons.
Dans
toute l'écriture. Et quand nous mettons les autres visions en parallèle du ciel. C'est ce que nous avons vu, entre autres, dans Ésaïe chapitre 6, dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, aussi dans Daniel.
Et
bien, quand nous réunissons toutes ces visions, il y a beaucoup de choses, bien sûr, communes, puisqu'ils voient la même chose, sauf qu'il y a les révélations de l'Ancien Testament, sans personne qui était au ciel, parce que personne n'était au ciel. Et là, Jean nous donne une révélation beaucoup plus complète de tout ce qu'il y a dans le ciel. Il a vu et il écrit. Par contre, nous avons d'autres passages dans le Nouveau Testament où, par exemple, Paul parle qu'il a été au troisième ciel, qu'il a entendu des choses qu'il lui est difficile d'exprimer, c'est-à-dire il a du mal à trouver le langage pour en parler. Puis nous avons vu ici aussi, nous avons vu dans Hébreux 12 qu'il y a une certaine description d'un certain nombre de choses. On nous parle de Dieu dans le ciel. On nous parle des anges. On nous parle des rachetés. On nous parle de la Jérusalem céleste. Et puis Jésus nous parle aussi qu'il y a des grandes maisons dans le ciel, dans la maison de son Père. Donc, on réunit toutes ces informations et on commence à avoir, je dirais, une certaine compréhension de ce qu'il y a dans le ciel. Et nous verrons que l'Apocalypse va nous parler aussi pas mal de la Jérusalem céleste. Mais là, Jean va avoir le privilège, après avoir vu Jésus glorifié,
qui
lui a transmis le message aux sept églises, maintenant, il a le privilège de voir tout le trône et tout ce qu'il y a autour du trône. Et c'est ce que Jean nous décrit dans l'Apocalypse
4.
Et c'est ce que tu vas voir, mon frère, ma sœur. Le jour où tu vas partir. Le jour où ton corps va rester ici. Ce qu'il y a dans l'Apocalypse 4, tu le verras tel quel. Sauf que ce ne sera plus des mots sur lesquels tu essayes de comprendre comment c'est. Et ça, parfois, ça nous est un peu difficile. Mais tu le verras. Parce que tu vas le voir face à face. Tu verras le trône de Dieu. Tu verras Dieu face à face. Tu verras le Père et le Fils qui sont assis sur le trône. Le Fils qui sort du Père et qui revient dans le Père, car il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Tu verras l'Esprit de Dieu qui est décrit comme les sept esprits de Dieu. Tu verras cet arc-en-ciel que nous avons étudié la dernière fois. Tu verras les 24 trônes et les 24 anciens. Tu verras ces créatures qui, pour Ézéchiel, ont été difficiles à décrire. Qui sont les quatre chérubins. Et tout cela, tu le verras. Et tu verras la Jérusalem céleste. Tu verras la description, tu verras ta maison. Est-ce que tu seras dans ta maison? La gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parfois, nous sentons sa présence. Nous pouvons même des fois trembler sous sa présence ou tomber par terre sous sa présence. Mais là, sa gloire n'aura pas de limite pour nous. Alors que là, sur la terre, Dieu envoie des petites gouttes de sa gloire. Parce que notre pauvre corps mortel, quand sa présence vient un peu trop fortement, il ne tient plus. On trouve des fois que c'est fort. Mais pour Dieu, ce n'est rien. Parce que ton corps mortel, vraiment, et ce qu'on appelle réfractaire, c'est-à-dire ils ne supportent pas la gloire de Dieu. C'est normal. Parce que c'est la dimension de ton être qui est vouée à la corruption, c'est-à-dire à la destruction. Parce que nous avons péché avec notre corps. Et Dieu ne pouvait pas nous donner maintenant notre corps ressuscité
et glorifié.
Il faut que nous passions par la mort physique pour être revêtus à nouveau d'un corps glorieux qui lui pourra à 100% supporter la gloire de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi nous devons mourir physiquement d'abord. Avec notre corps, nous ne pouvons pas aller au ciel. Certains diront c'est dommage.
Ils
disent non, c'est pas dommage. C'est mieux comme ça. Parce que ce corps a hérité de la chute. Donc il a hérité du processus de mortalité. Et au ciel, tout est absolument glorieux. Il
n'y
a pas une trace de péché. Il n'y a pas une trace de rébellion contre Dieu. Il n'y a pas une feuille morte. Il n'y a pas de poussière. Tout est parfait. Tout est glorieux. Tout est, comme on dit, immaculé, c'est-à-dire que ça n'a pas été touché par le péché. Parce que la Bible nous dit que la mort, le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et c'est pour ça que sur cette terre, notre corps ayant péché, il restera ici. Ton corps, c'est ta maison. Tu dois entretenir ta maison parce que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc entretiens-la,
cette maison.
Parce qu'il y a des chrétiens qui disent de toute façon, comme je vais mourir et aller au ciel, je vais laisser mon corps. Ça, c'est de la stupidité. Non, Dieu ne t'appelle pas à ça. Tu dois entretenir ton corps parce que ton être réel habite dans ton corps. Et c'est au travers de cela que tu peux porter des fruits. Le ciel est un endroit ultra glorieux. Mais au ciel, nous n'aurons plus le privilège de prêcher l'évangile. Au ciel, les seules prières que tu adresseras à Dieu, c'est la prière de louange et d'adoration. Au ciel, tu n'auras plus besoin de foi. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de foi parce que ton corps mortel ne peut pas pénétrer dans le monde de Dieu. Donc tu as besoin de travailler, Dieu travaille au travers de ton esprit. Je suis vraiment en train de vous dire des vérités extrêmement importantes. C'est très très important ce que je vous dis. Je vous l'ai dit rapidement, mais c'est extrêmement fondamental. Tu as besoin de foi aujourd'hui parce que ton corps ne peut pas pénétrer dans le monde spirituel. Le jour où tu seras ressuscité, tu auras ton corps ressuscité, ton corps donc immortel, que tu auras aussi ta récompense. Le monde spirituel et le monde matériel, il n'y aura pas de problème. Mais là, vous voyez, notre grand combat, c'est entre ces deux mondes. Ce monde matériel que ton corps touche, que tu perçois avec tes cinq sens, ne peut pas entrer dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'avec tes oreilles physiques, tu ne peux pas entendre Dieu. Non, sauf si Dieu opère un don en toi. qui s'appelle le don de discernement des esprits. Il doit venir avec sa présence pour te donner juste une capacité pendant un temps très court de pouvoir entendre dans le monde spirituel ou de voir dans le monde spirituel. Mais à ce moment-là, ça doit être une intervention du Saint-Esprit que tu ne pourrais pas supporter très longtemps d'ailleurs. Parce que là, l'onction de Dieu vient très fortement dans ta vie. Et ton corps a du mal à supporter ça. Mais là où tu n'auras plus besoin de foi. Par contre, là où tu ne pourras plus amener qui que ce soit à Jésus. Tu ne pourras plus perpétrer la connaissance de Dieu sur la terre. Tu seras parfaitement bien. Tout sera parfait. Tu n'auras jamais même une pensée de souci. Tu ne pourras ressentir absolument aucune maladie. Tu seras pourvu parfaitement, ultra richement. Tout est parfait. Il n'y a pas de manque dans le ciel. Il n'y a que de la gloire. Une gloire qui nous a été révélée par Jésus. C'est comme ça au ciel.
Vous
voyez, il faut que vous compreniez cette immense bataille qu'il y a entre votre nature spirituelle et votre corps. C'est pour ça que des fois, on est en conflit entre notre corps et notre nature spirituelle. Tu es là, tu sais ce que Dieu veut. Et d'un seul coup, plein de choses s'opposent à toi au niveau de ton corps. Tes pensées veulent te presser pour ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est le combat. Le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Où ton esprit veut exprimer ce que Dieu veut par rapport au monde spirituel de Dieu. Et ton corps veut exprimer ce que le naturel veut faire. Mais quand tu seras au ciel, ça n'existera plus.
Ça.
C'est formidable. Et c'est pour l'éternité. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier notre mission ici. Cette mission est de construire le royaume de Dieu. Parce que croyez-moi, quand nous serons là-haut, il y aura des gens qui viendront nous voir et diront merci. Parce que ce jour-là, tu m'as donné ça, mais
je
n'ai pas pu te dire ce que je vivais. Ce jour-là, j'étais découragé. Et le Seigneur m'a révélé maintenant, m'a montré maintenant que c'est toi qui as prié pour moi. Etc. Et nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous ne découvrirons pas le côté négatif. Nous découvrirons uniquement le côté divin et positif. C'est pour ça que Dieu nous demande de marcher d'une certaine façon. Celui qui a des oreilles pour entendre.
Alléluia.
Donc, Jean voit tout cela. Il dit aussitôt, je fus ravi en esprit, littéralement, je fus en esprit, c'est-à-dire le monde naturel avait disparu autour de lui. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, le troisième ciel, bien sûr, et sur ce trône était assis quelqu'un, nous avons vu
que
c'est Dieu. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Verset 3. Et là, en fait, nous avons découvert une chose. C'est que Jean a du mal à décrire Dieu. Je vous rappelle qu'il n'a pas vu la face de Dieu. Mais je vous ai expliqué, parce que certains disent, oui, mais attendez, je ne vois pas, je vois pas. La Bible nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a l'air de voir une seule personne. Mais la Bible nous montre clairement que le Fils est assis à la droite du Père. Et que le Fils procède du Père. Et Et ça, c'est important. Jésus dira, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a eu c'est la vision du trône. Et il disait, il avait eu l'ordre de ne pas regarder le visage de Dieu. Et tous les serviteurs de Dieu, ou toutes les personnes qui ont eu de réelles visions du trône. Quand vous comparez leurs témoignages, elles diront toutes qu'un ange leur a dit, l'ange qui les amenait leur a dit la chose suivante. Ne regarde pas la face de Dieu, le visage de Dieu. Mais je pense particulièrement au témoignage d'un serviteur de Dieu. Steve, tu as lu ce témoignage d'ailleurs. Il est très beau. Qui s'appelle Jesse Duplantis.
Oui, quoi, Jesse Duplantis.
Et il dit, c'était étonnant, il voyait le Fils sortir du Père. Sortir du trône. Et il revenait dans le Père. Et il disait, c'est difficile à expliquer. Mais c'est comme ça que les choses sont. Mais tous ceux qui ont eu des révélations n'ont jamais eu le droit de voir le visage de Dieu. C'est seulement quand tu seras là-haut que tu seras mort physiquement, que tu auras la possibilité de voir Dieu face à face. Rappelez-vous ce que la Bible dit clairement. On ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. L'homme dans son corps ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Tu le verras face à face. Mais la Bible nous dit clairement, et je vous ai montré cela, parce qu'on peut se poser la question, à quoi ressemble Dieu ?
Et
bien, nous avons clairement vu dans la parole que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons vu que l'image, c'est l'aspect d'esprit, âme et corps. C'est la nature, l'image. La ressemblance, c'est à quoi ressemble Dieu. Eh bien, l'homme ressemble à Dieu. Et je vous ai montré clairement dans l'Écriture que Dieu a des membres et que nous lui ressemblons. Parce que la Bible le dit. Donc il n'y a pas de grand mystère. Nous ressemblons à Dieu parce qu'il nous a créés à son image. Maintenant, il est triste de voir la déchéance de l'homme à cause du péché. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, Jean voit tout cela. Et puis, au verset 4, nous l'avons vu. Nous avions commencé cela. Il dit, autour du trône. Oui, entre-temps, il a vu un arc-en-ciel. Et je vous ai montré que l'arc-en-ciel, c'est le symbole que Dieu est un Dieu d'alliance. Et je vous ai montré la belle image de l'arc-en-ciel. Puisque l'arc-en-ciel, c'est quoi ? C'est la lumière du soleil qui se décompose quand elle rencontre des gouttelettes d'eau.
Parce
qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel quand il n'y a pas de pluie. Et je vous ai montré cette merveilleuse image. Évidemment, la lumière, c'est quoi ? C'est la vérité. La révélation de la vérité. Qui est transmise par quoi ? Dans ses différentes facettes. Par le symbole de l'eau, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle à l'homme qui est Dieu. Et nous avons remarqué aussi une chose, c'est que cette lumière du soleil a l'air d'être une seule lumière et elle se décompose en différentes lumières, différentes couleurs. Et cela nous montre justement les différentes facettes de la révélation que Dieu donne du ciel, puisque la lumière vient du ciel, la lumière du soleil, l'image de la vérité qui est transmise par le Saint-Esprit en différentes facettes.
butandukanye.
Et c'est aussi bien sûr le fait que Dieu est un Dieu d'alliance.
Nk'icyo rero cy'uko Imana ari Imana y'isezerano.
Alors, il est clair qu'au verset 4, donc il est dit autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or.
Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24, kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicaye ko bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari bitsibo by'izahabu.
Donc j'en vois Dieu sur le trône. Mais il voit aussi d'autres choses. Il y a cet arc-en-ciel qui est autour. Mais il voit aussi des gens. Et il parle de 24 anciens, 24 personnages qui sont dans des positions d'autorité. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont sur des trônes. Et c'est ordonné par Dieu. Ils ont un vêtement blanc qui veut dire clairement une sainteté. Couronne, récompense. Ils ont droit à la proximité du trône. Parce que quand nous étudierons la suite de l'Apocalypse, la Bible nous montre la Jérusalem céleste et le trône de Dieu au milieu de la Jérusalem céleste. Donc, en fait, le trône se voit de partout à partir du moment où on est dans la Jérusalem céleste. Tous ceux qui sont dans la Jérusalem céleste voient le trône. Et la proximité du trône, plus on est proche du trône, plus on est proche de la gloire de Dieu. Et la Bible nous parle de ces 24 anciens qui sont assis, ils ont des positions d'autorité. Et on a commencé à se poser la question, qui sont ces 24 anciens? Et nous avons découvert 12 qui ne sont pas trop difficiles à savoir. Puisque nous avons vu dans plusieurs passages que Jésus promet à ses disciples qu'ils sont assis sur des trônes. Mais nous avons remarqué aussi que c'est vrai qu'il y avait 12 disciples, mais il y en a un qui n'est pas au ciel. Et nous savons que c'est Judas. Nous avons vu aussi que
Matthias
a été un choix humain. Matthias a été un choix humain, n'a jamais été un choix divin. Nous avons vu ça dans les Actes des Apôtres, au début, acte 1. Et là, c'est clair que le 12e, si on étudie l'écriture, le choix divin, ça a été Paul. C'est clair qu'il y avait les 11 plus Paul pour faire 12. Et Jésus a promis qu'il serait assis sur des trônes. Nous avions vu ces passages la dernière fois. Alors maintenant, la question sur laquelle nous sommes restés au dernier enseignement, c'est que 24 n'est pas égal à 12. Il en manque 12. Qui sont-ils? Alors, on pourrait penser, 12, ça nous fait penser aux 12 tribus de Judas. D'Israël, pardon, excusez-moi. Mais là, franchement, si vous me dites, parce que ce sont des récompenses. Ici, on voit bien qu'il y a un aspect de récompense. D'abord, la proximité de la gloire. Dieu est sur son trône rempli de gloire. Et autour, dans la proximité, il y a 24 personnes. Et quand la Bible utilise ce mot ancien, presbytéros en grec, ça veut vraiment dire en fait une personne qui est responsable, un sage.
Ce
qui s'appelait il y a très très longtemps au Burundi les abashinanai. Il y a très longtemps.
Hein.
Les grands sages. Il y a très très longtemps, ça a beaucoup changé maintenant. Et en fait, ces personnes-là sont des choix divins. Ultra récompensé,
ni abatoranijwe batewe iteka rikomeye,
proche de la gloire,
begerejwe
de la plus grande gloire qui existe dans l'univers,
begerejwe intebe inganje imana ubwiza n'ubunenazwa atahandi buboneka ku isi nzima,
la plus grande gloire qui existe dans l'univers,
ubunenazwa atahandi na hamwe buba mu isi,
premier, deuxième, troisième ciel,
haba mu ijuru rya mbere rya kabiri cyangwa rya gatatu,
elle est au troisième ciel,
ubwo bunenazwa buri mu ijuru rya gatatu,
c'est Dieu lui-même.
Ni kumana yonyene.
Donc Dieu devait choisir et a dû choisir 24 personnages qui ont été marquants. 12 du Nouveau Testament, nous avons des pistes et nous savons à peu près qui c'est. Et nous savons qui c'est, précisément.
On peut dire.
Maintenant, qui sont les 12 autres? Il est évident qu'ils représentent l'Ancien Testament. Parce que franchement, quand on voit certains personnages de l'Ancien Testament, avec la connaissance qu'ils avaient, donc, entre guillemets, le manque de connaissance par rapport à ce que nous avons comme connaissance, on peut avoir, à mon avis, certains éléments de réponse. Maintenant, on n'a pas tous les éléments de réponse. Mais
ce
n'est pas grave. Je vais vous enseigner certaines choses
que
je crois être justes. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Quand on sera au ciel, je vous montrerai qui avait raison. Alors, on va regarder Hébreux chapitre 11. Parce que dans l'Ancien Testament, on a des personnages marquants qui ont vraiment fait des choses fantastiques avec la connaissance qu'ils avaient, parce qu'ils avaient l'onction, mais ils étaient pécheurs. Rappelez-vous d'une chose, nous ne sommes pas pécheurs, plus pécheurs, je précise, nous ne sommes plus pécheurs, mais eux, même les plus grands personnages de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas de nouvelles créatures. Quand ils mouraient, ils n'allaient pas au troisième ciel directement. Ils allaient dans le sein d'Abraham, dans l'attente que Jésus vienne et délivrer la résurrection d'entre les morts, à sa résurrection, après sa résurrection. Donc, ces personnages vivaient des choses très difficiles. Ils étaient complètement secoués. Le diable leur faisait des coups terribles. Et quand je vous dis des coups terribles, des coups terribles. Lisez les combats de certains personnages bibliques dans l'Ancien Testament. Vous verrez que c'était terrible. Un jour, Dieu demande à Abraham de sacrifier des bêtes. Il sacrifie des bêtes. Dieu demande à Abraham de sacrifier des bêtes, de lui préparer des sacrifices. Et il prépare le sacrifice, il coupe les bêtes. Et d'un seul coup, bizarrement, il y a tout un truc qui se passe bizarre, une atmosphère spirituelle. Il a failli ne pas pouvoir offrir ce sacrifice. Dieu après va descendre avec sa puissance. Mais entre le moment où Dieu va descendre avec sa puissance et le moment où Abraham a préparé son sacrifice, il y a eu un terrible combat. Terrible combat. Vous pouvez lire ça dans la Genèse. Quand vous voyez Élie, Élie remporte une superbe victoire. Il ramène le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui était rempli d'idolâtrie, manipulé par Akab et
Jézabel,
un peuple entier qui était manipulé par deux leaders. Ils offraient des sacrifices à des démons. Les dieux Baal, c'était des démons. Élie arrive, La puissance de Dieu tombe. Et
gens disent,
ah, c'est le Dieu d'Élie, c'est l'Éternel, qui est notre Dieu maintenant. Et Élie ramène tout le peuple auprès du Seigneur. Mais après, il fuit. Et il dit, Seigneur, je suis là tout seul. Il
n'y
a que moi qui te sers. Et il fait une déprime terrible. À tel point que Dieu va lui dire, tu vas aller voir Élisée et tu vas le oindre à ta place. Ça a mis quand même 10 ans et demi avant qu'Élie parte. Mais Élie avait vraiment des difficultés, des attaques terribles. Je pourrais vous donner exemple sur exemple. Combien de fois on a voulu tuer Daniel? Lisez le livre de Daniel. Qu'est-ce qui faisait de mal? Il servait le Seigneur. Et on leur a fait tous les coups possibles, imaginez. Si vous ne trouvez pas qu'il y a le diable et les démons derrière tout ça, dites-moi qui c'était alors. Eux n'avaient pas le nom Jésus. Ils n'avaient pas le nom de Jésus. Pour prendre une position ferme contre les puissances sataniques. Et ils ont vécu des choses très très dures. Ce sont les héros. Les héros qui vont être décrits dans Hébreux 11. En tout cas, il y en a certains. C'est évident pour moi qu'ils sont sur ces trônes. Donc au début, au verset 1, nous avons ce fameux verset sur lequel nous enseignons sur la foi, bien sûr. Hébreux 11, verset 1, verset 2, maintenant on va mettre rapidement. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu, merci, verset 2, un témoignage favorable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, etc. etc. Verset 4, Hébreux 11, c'est par la foi. Alors là, à partir du verset 4, après l'apôtre, après avoir donné verset 1, 2 et 3, des choses sur la foi, des généralités sur la foi, au chapitre 11 d'Hébreux, il va y avoir toute une liste de personnes qui vont agir, qui ont agi dans la foi. Certains ont fait certaines actions dans la foi, mais ils ne sont pas des héros de la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réalisé de grandes choses dans la foi. Par contre, la Bible en parle, par exemple, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Bon, là ici, c'est nommé dans Hébreux 11, pourquoi? Parce que, bien, effectivement, Abel a démontré qu'il avait compris la loi divine. Quand on s'approche de Dieu, il faut un sacrifice. Mais Abel n'est pas un grand héros de la foi. Si vous lisez son histoire dans Genèse chapitre 4, c'est vrai, Dieu va approuver la façon dont il s'approche de lui. Mais
ce
n'est pas un héros qui lui a donné une grande couronne. Parce qu'il n'a rien accompli d'extraordinaire. Par contre, il avait compris qu'à partir du moment où ses parents avaient été chassés du jardin d'Éden, qu'ils étaient devenus pécheurs, la seule façon de s'approcher de Dieu, c'était de respecter la loi spirituelle du sacrifice. Mais on n'a pas de grandes actions de la part d'Abel. Ensuite, il est dit, non, on revient verset 4, merci. Verset 4. Donc c'est par elle, la deuxième partie, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ensuite, verset 4, verset 5, pardon, c'est par la fin, on va y arriver, qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Bon, ok, Enoch, on en parle un peu dans la Bible. Car sans la foi, il est impossible, etc., etc. Ça, c'est les versets qu'on a l'habitude d'étudier. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et qui est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, etc. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham. Alors, Abraham va être un personnage absolument marquant dans la Bible. Abraham, toute la Bible en rend témoignage. Si, quand on ira au ciel,
Abraham
n'est pas sur un des 24 trônes, là je vous donnerai ma maison au ciel. C'est évident qu'il fait partie de ces gens qui ont des grandes récompenses. C'est évident. Parce que toute la Bible en témoignage de ce personnage biblique qui n'était pas parfait, qui a fait des sacrés gaffes, mais qui a été le catalyseur pour que Dieu se mette un peuple à part, qui deviendra au travers de sa postérité la semence naturelle divine.
Le peuple
mis à part par Dieu dans une nation qui devait garder la connaissance de Dieu et la transmettre aux autres nations,
mais
qui malheureusement a échoué. Mais à partir d'Israël, quelqu'un est venu, quelqu'un est né, notre Sauveur, qui lui a créé une postérité spirituelle. Mais tout ça, ça a été par Abraham. Jésus a rendu témoignage à Abraham. Toute la Bible rend témoignage à
Abraham.
Donc vraiment, pour moi, c'est sûr qu'Abraham est sur un trône. Il est le père des croyants. Il est le père de la foi, etc., etc. Jésus parle du saint d'Abraham. Si Abraham n'était pas sur un trône, je ne vois pas qui pourrait être sur un trône. C'est clair pour moi qu'il est sur un des 12 trônes. Personnage de l'Ancien Testament. On peut passer verset 9. Alors Isaac, Jacob, Ésaü. Alors Ésaü, c'est sûr que c'est non. Pourtant c'était des descendants d'Abraham. Jacob, il n'a pas fait énormément de choses. Isaac, franchement non plus. C'est des gens qui ont profité de la promesse d'Abraham. Je peux me tromper, mais personnellement, je ne pense pas qu'un des trois soit sur un trône. Je peux me tromper. Bon, ensuite, il y a Jacob, il va y avoir Joseph. Est-ce que Joseph y est? Je ne sais pas. Je n'aurai pas la réponse. Mais après, on passe. Là, on a fini la Genèse déjà. Et on va parler d'un autre personnage qui, c'est évident, est sur un trône. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse. L'homme le plus patient de la terre. Il avait la plus grosse église rebelle du monde. Il vivait dans le miraculeux. Mais c'est incroyable, Moïse, le nombre de miracles qu'il a fait. Il parlait et les choses se passaient pouf comme ça. Dieu a fait des miracles au travers de Moïse qu'on n'a jamais revu sur la terre. Dieu a ouvert qu'une seule fois une mer. C'était au temps de Moïse. Dieu a envoyé qu'une seule fois, pendant des mois et des années, des poulets du ciel.
Ni rimwe gusa ni iminsi mikenya mu gihe kanaka kimwe gusa ntibirasubira kuba aho Imana irungika inkoko ziva mu ijuru inyama ziva mu ijuru.
Moïse c'était incroyable.
Moïse
le surnaturel, le miraculeux, Moïse c'était tous les jours.
Ibitangaza n'utwumiza
n'ibimenyesho. Il entendait une voix tous les jours.
Yabibamwe miso
ijwi y'Imana. Il voyait une représentation de Dieu tous les jours.
Yamabona ikigereranywa cy'Imana miso yose imbere
y'Imana. Combien de fois vous avez dans le Deutéronome, donc dans les parties entre donc la partie du Deutéronome où Moïse parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Et c'est au travers de Moïse.
Nikanga ubona mu gusubira mu byagezwe tabo cyo gusubira mu byagezwe Mose avuga ngo uko niko horavuze amubwira n'ijwi ryumvikana.
Moïse même s'il n'a pas vu les promesses.
Mose nubwo atashitse ngo abone amasezerano.
Parce qu'il devait rentrer dans le pays promis.
Kuko nawe yatezwe kwinjira mu gihugu
cy'Isiraheli. Sa mission était de faire sortir le peuple d'Israël d'esclavage.
Yarafise igikorwa cyo gukura abanyisraeli muri Egiputa.
De traverser le désert avec ce peuple.
Bakajabuki ubugaragu ari kumwe nabo.
Et de les amener dans le pays promis.
Akabashikana mu gihugu cy'Isiraheli.
À cause des gaffes du peuple.
Kubera ingene abantu bamugora.
Moïse a encore eu 40 ans dans le désert.
Mose yongera amara imyaka 40 mu bugaragu.
Moïse on pourrait l'appeler monsieur désert.
Mose ngira umuntu yo mwita ati
il y a vécu 80 ans.
Ya urumva yabayeho imyaka 80 mu bugaragwa.
À cause des erreurs, des péchés du peuple.
Kubera ibyaha n'amakosa yihanga.
Il a dû rester dans le désert.
Aguma mu bugaragwa.
Mais à cause de ses erreurs.
Ariko kubera amakosa yiwe.
Il n'est pas entré dans le pays promis.
Ntigeze yinjira mu gihugu cy'Isezerano.
Relisez, c'est intéressant.
Mushobora kubisoma kandi biraryoshye gusoma.
Mais Moïse a été un personnage marquant.
Ariko Mose yari umuntu akomeye.
Toute la Bible lui rend témoignage.
Bibiliya yose iramuvuga.
Donc pour moi, je le mettrai sur un trône.
Kuri jewe rero.
Mais comme je ne suis pas Dieu.
No mushira ku ntebe ngaje mvuga ko ntari Imana.
Mais je pense que le Seigneur l'a mis sur un trône.
Nibaza ariko ko Imana.
Parce que toute la Bible.
Yamushize ku ntebe
ngaje. Fait référence à Moïse.
Kuko Bibiliya yose iramuvuga Mose.
Toute la Bible fait référence à Moïse.
Bibiliya yose iravuga Mose.
Donc on peut peut-être passer l'histoire de Moïse.
Tushobora kuvuga kuri Mose.
T'as été un peu loin, non, tu crois pas? Verset 32 déjà, non, quand même pas. Je pense qu'un peu plus haut, il y a quand même d'autres personnages. Non? Ok. Verset 24, ok, on parle encore de Moïse. On en parle longtemps de Moïse dans Hébreux 11, c'est normal. Alors, ensuite, et que dirais-je encore? Alors après, on voit que l'apôtre va parler plus rapidement d'un certain nombre de personnages. En fait, il va dire, que dirais-je encore? Verset 32, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes.
Ngo mvuga iki kindi kuko igihe cyondengana ndondoye ibya Gideon n'ibya Baraki n'ibya Samson n'ibya Yefuta n'ibya David n'ibya Samuel n'ibya bavugishwa n'Imana.
Alors, on peut se poser des questions sur un certain nombre de ces personnages. C'est vrai que l'apôtre passe très rapidement dessus.
Ah, turabona rero uyu yanditse igitabo anyaruka cyane aje kuvuga ibya Mose.
Alors, c'est clair que le roi David par contre, pas le roi Saül. Mais David est un personnage marquant dans l'Ancien Testament. C'était un homme qui avait le cœur de Dieu.
Selon Dieu.
C'est clair que David est sur un trône. On a pu en repérer 3 sur 12 pour l'instant. On parle des plus évidents. Après, je ne sais pas. Vous savez, il y a les médaillés d'or, les médaillés d'argent et les médaillés de bronze. Nous sommes dans les Jeux Olympiques en ce moment. Ils ont tous eu la même récompense d'être aussi proches du trône de Dieu. D'avoir ces couronnes et la proximité de la gloire, donc vraiment un règne en étant proche de Dieu déjà dans le ciel. Parce qu'on va voir, nous parlerons de nos récompenses et nous verrons les deux volets de nos récompenses dans le millénium et dans l'éternité. Ah, je vais vous faire réfléchir avec l'Apocalypse, vous allez vraiment réfléchir. Parce que je veux que vos vies soient motivées par la révélation de l'éternité. Nous sommes tellement pris par les choses de ce monde, c'est-à-dire le naturel. qui toujours nous tire vers le bas. Qu'il faut constamment voir dans l'éternité. Si nous voulons vraiment vivre pour la gloire de Dieu. Sinon, tu seras rapidement découragé. Ou démotivé. Ou orienté à te refroidir gentiment, discrètement par les choses de ce monde. Parce que tu ne te plonges pas régulièrement dans l'éternité. C'est classique. Plus tu passes de temps dans les choses naturelles, plus les choses de Dieu sont difficiles pour toi. Mais tu dois passer des choses dans le naturel parce que tu as une famille, parce que tu as un travail, parce que tu as des études. Et ça, c'est normal. C'est pour ça qu'il te faut des temps où tu t'assois et tu penses à tout ça, à la gloire qui t'est réservée, à l'infini, à l'éternité. Et c'est ce qui va motiver ta vie, parce que tu vas être influencé par Dieu et tu vas prendre ces décisions qui déterminent tes directions et qui forgent ta destinée. Et si tu veux marcher avec une destinée, dans la destinée divine, il faut aller à la source, l'influence du Seigneur. Donc ici, on voit, il parle d'un certain nombre de personnages bibliques. Est-ce que Samuel fait partie de ces gens qui règnent sur ces trônes? Peut-être. Je pense, certainement. Parce que Samuel était vraiment un grand prophète. C'était un homme puissant qui a marqué vraiment l'histoire d'Israël. Verset 33, on peut regarder. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Tiens, fermer la gueule des lions, c'est qui ça? Daniel. Bien sûr, Daniel.
Pour moi,
Daniel, c'est clair, il règne sur un trône. Certainement aussi que d'autres prophètes. Lisons la suite. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Et ils furent lapidés, sciés. Vous savez qu'il y a un prophète qui a été scié? C'est Ésaïe. Le prophète Ésaïe a été persécuté. C'est un prophète qui a vécu extrêmement longtemps, qui a eu des révélations absolument extraordinaires. Et cet homme, on l'a tué en le sciant. Vous savez, quand Jésus a reproché aux Juifs d'avoir tué les prophètes, s'il parlait d'Ésaïe, mais pas seulement. Jérémie a été persécuté. Je pense que Jérémie est aussi avec Ésaïe sur un trône. Ce sont des prophètes qui ont marqué énormément leur temps. Des gens qui ont payé de leur vie, qui ont été persécutés. Quand vous regardez Ézéchiel, mais il a été persécuté. Dieu l'a envoyé vers un peuple de rebelles. Il lui a dit, il lui a dit, je vais durcir ton front. Ce qu'il voulait dire, c'est vraiment, je vais travailler en toi, pour ton caractère. Parce qu'ils vont te faire les pires trucs. Alors que c'est moi qui t'envoie, ils ne te croiront pas, ils vont te persécuter. Ézéchiel était dans un temps où le peuple d'Israël était jugé par Dieu, Ancien Testament. Pour sa désobéissance, il était en captivité. Et pendant cette captivité, le peuple d'Israël disait, oh, de toute façon, Dieu est avec nous, il va nous faire sortir de là vite fait. Et entre autres, le peuple disait, c'est pas la peine qu'on construise des maisons, on va pas rester ici, on va bientôt partir.
Et
Ézéchiel, qui a eu beaucoup de visions du surnaturel, il a eu beaucoup de visions, il a eu des visions du trône, il a vu les chérubins. Il a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel, c'est le prophète qui explique le mieux dans l'Ancien Testament comment l'onction fonctionne.
Ézéchiel niwe asobanura neza mu isezerano rya kera kurusha abandi ingena amavuta akorera ku buzima bw'umuntu.
Et cet homme,
uyo mugabo,
a prophétisé, il leur a dit non, non.
Yaravugishijwe
construisez des maisons.
Atoya,
vous allez rester en captivité.
Ati muzoguma muri nyagano.
Et les Juifs, son propre peuple, ils l'ont persécuté terriblement. Leur fait tellement de mal. Vous savez, quand Jésus a reproché ça aux Juifs, c'était pas par hasard. C'était des choses très claires qu'ils avaient fait, des crimes contre des gens qui étaient oints. Jérémie a été mis dans un puits. On l'a fait descendre dans un puits, on lui dit reste là et meurs. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il prophétisait seulement. Il a prophétisé la captivité. Donc c'est clair que quand on voit ces héros de l'Ancien Testament, et il y en a d'autres, qui sont peut-être un peu plus difficilement détectables par rapport aux, entre guillemets, les plus grands héros. Comme Abraham, comme Moïse, ça c'est facile. Comme David, comme Daniel, comme certainement Ézéchiel, peut-être Samuel, peut-être Isaïe, certainement Isaïe, Jérémie. Il y a quelques autres places. Mais là, c'est plus difficile. Parce qu'il y a eu d'autres grands prophètes comme Zacharie.
Zacharie
a prophétisé aussi de très belles choses. Maintenant, sur quels critères Dieu a placé ces 24 anciens? C'est un peu difficile à dire. Mais c'est sûr que ce sont des personnages qui ont été marquants dans l'Ancien Testament. On pourrait dire le roi Salomon.
Hein.
C'est vrai que la Bible en parle.
Et
même le Nouveau Testament. Mais la fin de sa vie a été une catastrophe. Donc, les autres personnages, c'est un peu plus difficile. Mais on en a au moins les deux tiers qu'on peut détecter facilement. Donc on sait, en tout cas ça paraît clair qu'il y en avait 12 de la Nouvelle Alliance et 12 de l'Ancien Testament. Donc revenons à notre texte d'Apocalypse, chapitre 4. Et nous allons continuer à voir ce que Jean voit. Verset 5, il est dit « Du trône sortent des éclairs et des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Alors, on voit qu'il y a des sortes d'éclairs. Apparemment, il y a des... Qu'est-ce que c'est que les éclairs? Vous voyez des grandes lumières blanches comme des arcs électriques partout. Du tonnerre. On a l'impression qu'autour du trône de Dieu, c'est pas l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Du bruit qui signifie sa puissance. Cet aspect d'éclair, de tonnerre. Ensuite, on voit la troisième personne de la Trinité. Et là, elle est décrite en étant devant le trône aussi. Père, Fils sont assis sur le trône. Et le Saint-Esprit nous est-il dit est devant le trône. C'est difficile à expliquer tout ça.
Les
références que nous avons dans l'Apocalypse, les deux autres références à propos des, entre guillemets, des sept facettes de l'Esprit de Dieu, les sept Esprits de Dieu, c'est sept facettes de l'Esprit de Dieu, bien sûr.
Il
y a un texte que nous avions déjà lu dans Apocalypse 3, verset 1. Qu'on va afficher, et aussi Apocalypse 5, verset 6, donc 3, 1 et 5,
6.
Donc 3, 1, il est dit, écrit à l'ange, vous vous souvenez, on avait vu ce verset déjà, de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Alors, nous avions expliqué qu'il n'y a pas sept esprits de Dieu. Mais il y a les sept facettes de l'Esprit de Dieu que nous avions étudiées. On ne va pas revenir dessus. Nous avions vu le parallèle dans Ésaïe chapitre 9, je vous rappelle. Et là, c'est pour montrer les différentes facettes de l'Esprit de Dieu. Maintenant, regardons chapitre 5, verset 6 d'Apocalypse. Il est dit, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et du milieu des anciens, un agneau qui était comme là, immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés ou qui parcourent, dans notre traduction, toute la terre. » Alors, entre guillemets, ce qui m'amuse et ce qui m'agace aussi en même temps, quand je regarde des émissions scientifiques qui parlent de l'univers, de toutes les recherches qu'on fait sur l'univers, il essaie toujours de montrer que il y a d'autres mondes et certainement d'autres terres et certainement d'autres endroits où il y a des hommes et de la vie.
Biologique.
La Bible est claire. Dieu a mis sa gloire dans l'homme et dans la création sur la terre. Jésus est venu, Dieu le Fils s'est fait chair pour cette terre ici. Pas pour une galaxie où il y aurait une autre terre, où il y aurait d'autres habitants.
Il n'y
en a pas. Si Dieu a mis toutes ces étoiles, toutes ces planètes, tout cet univers extraordinaire autour de nous, c'est pour deux choses. Numéro un, c'est pour montrer sa grandeur et sa puissance. Que Dieu est un Dieu infini. Et il nous a juste mis un univers limité, mais immense, qui nous paraît infini, tellement grand. La deuxième chose, c'est pour que ça fasse joli pour nos petits yeux. Parce que, imaginez-vous, s'il y avait une terre, s'il y avait juste un soleil, et qu'il n'y avait rien d'autre. Le problème, c'est que la nuit, tu ne vois pas le soleil. Puisqu'il est de l'autre côté de la terre, entre guillemets. Parce que la terre tourne et le soleil ne l'éclaire pas la nuit. Et si tu regardais, c'était tout noir. Tu dirais, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Au moins là, tu vois des petites lumières à droite à gauche. Mais plus que des petites lumières. Je pourrais faire un petit cours là-dessus. Où les étoiles sont associées et représentent ce qu'on a appelé, entre guillemets, les signes du zodiaque. Chaque groupe d'étoiles forme certaines choses, on assimile ça à certains animaux ou à certaines choses.
quelque chose
qui vient de très très loin, une connaissance qui est très très éloignée. Et dans les étoiles du ciel, il y a le message du salut. Il y a le message du salut dans les étoiles du ciel. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que c'est un peu compliqué à vous expliquer ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder quand on regarde les étoiles. C'est très intéressant de s'y intéresser. Très, très intéressant. Alors, ici, donc, il nous parle de ces sept esprits de Dieu. Et au chapitre 5, verset 6, merci, on revient. Les esprits de Dieu envoyés qui parcourent toute la terre. L'idée des yeux de l'agneau. Et l'idée, bien sûr, c'est que Christ, la connaissance de Christ est répandue par l'Esprit de Dieu sur la terre. Lui, il voit cela, mais c'est comme un symbole. La connaissance de Christ, l'agneau, est vue par l'Esprit de Dieu qui révèle le salut. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu parcourt la terre, les yeux, entre guillemets. Ça nous montre que le Saint-Esprit, rien n'échappe au Saint-Esprit. Quand on dit que Dieu est omniprésent, ça aussi c'est quelque chose qui est très mal compris parmi les chrétiens. Ce n'est pas que Dieu est présent, ce qu'on appelle potentiellement, c'est-à-dire avec sa puissance partout. Mais c'est que Dieu, il
n'y
a rien qui lui échappe dans l'univers.
Il
n'y a pas un coin de l'univers qui échappe aux yeux de Dieu. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Rien n'est caché devant sa face. Dieu voit tout. Sait tout. Il connaît tout. Rien ne lui échappe dans l'univers. Et l'idée ici, c'est que bien sûr, cette connaissance de Christ, de l'agneau immolé, passe par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit se manifeste sur la terre. C'est lui qui révèle, qui met d'abord la conviction de péché chez le pécheur. Le pécheur qui a entendu l'Évangile. C'est aussi lui qui fait naître de nouveau le pécheur. Dieu n'est pas présent en tout, dans tout. Par exemple, Dieu n'est pas présent dans cette chaise en plastique. Par contre, Dieu a mis une trace de sa présence dans le pétrole qu'il a fait, qui a permis de faire cette chaise. Vous comprenez la différence ou pas? Quand des gens disent « Ah, Dieu a créé cet arbre », non, Dieu n'a pas créé cet arbre. Quand les gens regardent un arbre, ils disent « Dieu a créé cet arbre ». Non, Dieu a mis une trace de sa présence pour donner la première semence du premier arbre en lui donnant une capacité de se reproduire. Et il s'est reproduit dans les générations.
Et
un jour, tu vois cet arbre. Et tu ne peux pas dire que Dieu a créé cet arbre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est important ce que je vous dis ici, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens ne comprennent pas la différence. Dieu n'est pas présent dans tout. Parce que le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu l'as reçu, ça veut dire qu'il n'y était pas avant. Amen.
Amen.
Le jour où tu as reçu Jésus, ça veut dire qu'il n'y était pas avant. Tu avais la nature du péché. Mais dans la nature du péché, il n'y a pas Dieu. Et un jour, tu lui as demandé de venir. Et là, sa présence manifeste qui a manifesté le salut en toi est venu habiter dans ton esprit. Dieu est quelqu'un de passionnant à découvrir. Nous continuerons dans les prochaines semaines et vous allez voir qu'au travers de l'Apocalypse il y a plein de révélations passionnantes sur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.